cet album Spirit of Apollo de NASA, on écoutait Money.
Babel. Babel.
Pond-toi ma langue, pond-toi ma langue et fais tout ça. Pond-toi ma langue, pond-toi ma langue, je t'aime pas.
Babel a la fine saveur de lait frais.
Tu vas voir comme tu vas te régaler.
Vous allez vous régaler aussi tout de suite avec l'entretien que va mener Zoé. Vous allez tout savoir sur les logiciels libres et sur Jtinux.
Alors, bonsoir Maxime.
Bonsoir Zoé.
Donc, tu fais partie de l'association Jtinux qui promeut les logiciels libres, c'est bien ça ?
Voilà, tout à fait. Donc, c'est un groupe d'utilisateurs de logiciels libres, le groupe d'utilisateurs de logiciels libres local, donc de la métropole lilloise. Qui se donne pour but effectivement de promouvoir et de défendre le logiciel libre sur le modèle d'une association nationale qui est l'April, dont nous sommes membres.
L'April, c'est un peu Jtinux en plus large.
Non, l'April, c'est une association nationale de défense et de promotion des logiciels libres. C'est parce que, tout simplement parce que historiquement, les logiciels libres ont beaucoup fonctionné avec... ont beaucoup fonctionné sur du local depuis très 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 longtemps. Donc on a donc des structures locales un peu partout en France et dans le monde qui agissent au niveau du grand public, qui agissent au niveau de du grand public et puis des élus locaux, des administrations, etc. Et puis on a des associations plus larges, plus grandes, qui elles font un travail beaucoup plus idéologique que réellement concret sur le terrain.
Et bon, je vais te poser une question en tant que peu adepte du monde informatique. Les logiciels libres, qu'est-ce que c'est ?
Alors un logiciel libre, c'est un logiciel qui répond à quatre libertés fondamentales, qui est la liberté de copier, de modifier, de redistribuer et d'étudier un programme. En fait, tout simplement... Hein, concrètement, quand on crée un logiciel, quand on écrit un logiciel, qu'on le conçoit et qu'on le réalise, la création de logiciel en fait tombe sous la législation du droit d'auteur, ce qui signifie qu'en fait c'est pas un brevet où une entité quelconque décide que telle technologie est à elle et si vous voulez l'utiliser, ben faut payer. Les logiciels tombent sous le coup de la loi des droits d'auteur, ce qui signifie qu'un auteur a le droit de renoncer à un certain nombre de ses droits. Et donc de publier ses créations sous des licences qui vont être le moins restrictives possible. Donc il y a tout un tas de licences différentes en fait, qui sont applicables soit au droit américain, soit au droit français, etc. Et qui sont plus ou moins restrictives, plus ou moins permissives. Donc un logiciel libre, c'est ça, c'est un logiciel que vous avez le droit, que l'auteur vous donne la liberté de le copier, c'est-à-dire qu'on ne pirate pas des logiciels libres, on ne se situe pas du côté illégal des choses quand on utilise des logiciels libres et qu'on les diffuse. Donc vous avez le droit de le copier, de le redistribuer, vous pouvez très bien créer un site internet sur lequel vous mettez plein de logiciels libres en téléchargement, ça pose aucun problème. Vous avez le droit de modifier le logiciel. Donc ça, c'est effectivement pour des personnes qui ont des compétences techniques, effectivement. Et vous avez le droit également de l'étudier. Ça, c'est très très important. Ça signifie que y a une garantie, en fait, que quand une technologie se trouve sous licence libre, je vais prendre, mettons, par exemple, le flux audio web de RCV, qui est en format Ogg Vorbis, ça veut dire que n'importe quel logiciel son peut faire... Enfin, peut écouter ce flux, pas comme le site de Radio France qui t'oblige à utiliser des technologies Microsoft. Et si tu n'utilises pas Windows, et ben voilà, tu peux pas regarder Radio France, qui est un service public.
D'accord.
Voilà. Voilà.
Et donc, tu nous parles des logiciels libres et par rapport à ces logiciels libres, vous, Stinux, vous faites quoi ?
Bah, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, concrètement, on fait 4 événements par mois en ce moment. Donc 2 conférences et 2 install parties. Alors les conférences, on fait une conférence grand public, donc présentation des logiciels libres, etc. Ça c'est des choses qui effectivement, il y a beaucoup de demandes là-dessus en fait. Les gens savent pas forcément ce que c'est, savent pas forcément les logiciels en eux-mêmes qu'ils peuvent utiliser. Question là, on a une conférence également plus technique parce que quand même logiciel, ça veut dire informatique. Et puis on fait des install parties. Alors les install parties c'est quoi ? Eh bien globalement, vous amenez votre ordinateur. Alors soit vous souhaitez rester avec votre Windows tout pourri et on vous installe des logiciels libres dessus, type Firefox, OpenOffice, etc. Et puis on vous conseille là-dessus, on peut vous aider, vous donner des conseils techniques. Soit vous venez avec votre ordinateur dans le but de retirer votre Windows, de libérer votre ordinateur, et donc dans ce cas-là, effectivement, on peut vous installer des logiciels libres, des systèmes informatiques complets qui sont libres, type Linux ou autre.
D'accord, et tout ça c'est gratuit ?
Et tout ça, nous le faisons effectivement gratuitement. Nous sommes une association à but non lucratif, nous le faisons parce que nous aimons ça, et puis nous le faisons pour tout un tas de raisons qui font qu'on aime le logiciel libre, que ce soit des raisons techniques, parce que se rend compte à l'utilisation qu'effectivement pas mal de logiciels libres sont supérieurs à leur concurrence propriétaire, et puis également on se rend compte, enfin également il y a des raisons idéologiques bien entendu à ça. Voilà, est-ce qu'on préfère un monde où seule une partie de la population a accès à l'information correctement ? Non, voilà, non.
D'accord. Ça, c'est tes raisons à toi aussi de mener ces actions-là ?
Logiciel libre, il y a 2 choses. Alors, je suis étudiant en informatique, donc effectivement, il y a un certain nombre de choses. Je te parlais des 4 libertés tout à l'heure. Le fait qu'on puisse étudier le fonctionnement d'un programme, c'est super pour apprendre. Donc bon, il y a cette raison-là effectivement. Donc logiciel, bon, il y a le mot logiciel quand même dans logiciel libre. Puis quand on parle de logiciel libre, on parle aussi de liberté. C'est pas un mot qui est là, qui est innocent, qui sert à rien. C'est il y a quand même derrière une idéologie qui est très forte. Effectivement, ça rentre dans le cadre de choses comme l'économie solidaire, etc. Et puis des choses qui commencent à arriver un petit peu dans l'informatique. Il y a des mots marketing déjà, comme Green IT.
Green IT,
Information Technology. Donc les technologies de l'information verte. C'est-à-dire des gens qui essayent quand même maintenant de rendre l'informatique compatible avec une écologie durable.
Ok.
Voilà.
Et donc dans Stinux, il y a Sti et il y a Nux, donc je sais pas, ça a un rapport avec Linux.
Voilà, exactement.
Tu peux nous expliquer un peu ce que c'est ?
C'est exactement ça. Donc alors Linux, qu'est-ce que c'est ? Globalement, c'est un système informatique, donc un équivalent, j'aime pas le mot, mais un équivalent de Windows, donc qui est libre. Alors en règle générale, c'est le système GNU et le noyau Linux, donc c'est juste pour dire qu'effectivement, le tout n'est pas, enfin la partie ne fait pas le tout, hein. Mais donc c'est le système GNU qui est un système libre qui a été développé par Richard Stallman à partir des années 80, et le noyau Linux qui est un noyau l'une des pièces maîtresses d'un système informatique qui lui vient complètement d'ailleurs d'un autre projet qui était le projet d'un étudiant finlandais, Linus Torvald. Qui a donc écrit un noyau de système d'exploitation dans le cadre d'un hobby d'étudiant en fait, puis ça a grossi grâce à Internet. Aujourd'hui, il y a des millions de contributeurs, soit anonymes, soit connus. Il y a des grosses entreprises, des grosses structures, des gros acteurs de l'industrie informatique, type IBM ou autres, qui collaborent à ces logiciels-là, qui les utilisent. Aujourd'hui, les logiciels libres sur Internet, c'est Yahoo, c'est Google, c'est IBM, c'est plein d'acteurs comme ça qui les utilisent de manière quasi exclusive. Hein. Facebook utilise quasiment que des logiciels libres. Comme quoi qu'on peut faire des choses très très méchantes du point de vue de la liberté, comme Facebook, avec des logiciels libres. Bon. Mais voilà, donc il y a quand même des choses qui font que techniquement, des choses comme Linux sont fonctionnelles, sont de plus en plus simples d'accès. Des systèmes comme Ubuntu, donc basés sur GNU et Linux, sont des systèmes qui s'installent en quelques clics, honnêtement. Donc avec une transition.
Je te coupe, mais Ubuntu, c'est ce qui permet de faire tourner l'ordinateur.
Voilà, c'est ça. D'accord. C'est-à-dire c'est un système informatique complet, un équivalent de Windows.
D'accord.
Mais libre. Voilà. Donc, et ça, ce sont des choses qui effectivement plaisent au grand public à l'heure actuelle. Parce que de plus en plus, on se rend compte que Microsoft fait énormément de mal aux technologies de l'information de manière générale. Quand on voit un Windows Vista qui coûte 600€ en boîte, quand on voit qu'on ne sait pas combien coûte réellement le Windows que vous payez quand vous achetez un ordinateur, payez la taxe Microsoft, on voit qu'on ne sait pas exactement comment Microsoft se paye là-dessus. Les tarifications sont pas claires, c'est complètement illégal. Ça l'a toujours été d'ailleurs, hein, la vente liée est interdite en France. Donc, à l'heure actuelle, vous êtes obligé d'avoir connu Windows. Il faut savoir qu'il y a des alternatives qui sont idéologiquement propres et qui sont technologiquement fonctionnelles et simples d'accès pour les débutants ou pour les personnes qui se destinent pas à une carrière d'informaticien.
Ok. Et alors, la simplicité d'accès, ça vous permet de toucher des non-avertis, peut-être même des institutions ?
Alors, les institutions, il y a énormément d'institutions qui passent de plus en plus au logiciel libre. Alors, en matière de migration, il faut faire très attention. Il y a un contre-exemple qui est vraiment à citer, c'est celui de la mairie de Munich, qui a décidé du jour au lendemain de passer tous ses ordinateurs sous Linux. Ça a été un gros gros couac. Les utilisateurs n'en voulaient pas. On leur a imposé ça, ils n'en voulaient pas. Donc la mairie de Munich a fait un pas en arrière. Mais vous avez des transitions qui sont pleinement réussies, que ce soit dans les administrations, que ce soit dans les corps d'État. C'est au Vietnam, je crois, que le gouvernement a décidé de passer entièrement en logiciel libre. En France, l'Assemblée nationale fonctionne exclusivement en logiciel libre depuis plusieurs années maintenant. La gendarmerie nationale, quand même une institution... ministère de la Défense quand même. La gendarmerie nationale donc a décidé de migrer à terme tous ses postes, que ce soit les postes utilisateurs, c'est-à-dire quand vous allez déposer plainte à la gendarmerie, vous pouvez tomber sur une personne qui utilise du Linux. Et puis également leur infrastructure informatique, qui elle est a priori la migration est quasiment terminée pour ça, paraît-il. Encore une fois, chiffre du ministère de la Défense. Mais bon, c'est utilisé par des entreprises. J'ai nommé quelques grands noms de l'Internet américain. Je pourrais nommer des Français aussi, mais bon. Et puis, donc par des grandes entreprises, des grands grands noms du net, de l'industrie informatique. Également par des corps d'État. Donc, il y a une raison à ça, hein. Au-delà de la raison idéologique, c'est que ça marche tout bêtement. Et puis vous avez également tout un ensemble vraiment grandissant de personnes qui soit s'y intéressent, soit franchissent le pas. Dans les associations, dans les groupes d'utilisateurs locaux de logiciels libres à l'heure actuelle en France, vous commencez à avoir moins d'informaticiens que de personnes non informaticiens. Ça intéresse les artisans, ça intéresse virtuellement à peu près tout le monde, hein, de toute façon. Les raisons de passer le pas sont vraiment idéologiques au départ. Il faut vraiment insister là-dessus.
D'accord. Est-ce que j'ai entendu parler d'une possible raison, c'était qu'il y avait moins de virus si on utilisait des logiciels libres ? C'est une légende ?
Légende, oui et non. Je m'occupe beaucoup de sécurité informatique, alors je connais un peu ce domaine-là. Légende, oui et non. En fait, disons que d'un côté, vous avez un système qui fait 90%. Enfin, oui, ils sont passés en dessous de la barre des 90% sur le système PC. Voilà, hein, qu'on se tienne pour dit. Donc effectivement, quand vous écrivez un virus et que vous voulez faire le plus de mal possible, vous tapez dans la cible la cible majoritaire, quoi. Donc effectivement, il y a cet effet-là. Mais d'un autre côté, les systèmes libres sont des systèmes qui se basent sur une norme qui est la norme Unix, la norme POSIX, la norme Unix en fait, donc une famille de systèmes qui est le système Unix, qui représente en fait tout bêtement la réalisation de principes mathématiques et informatiques qui garantissent une certaine sécurité, une certaine stabilité. Donc au niveau des virus informatiques, des attaques, etc., c'est quand même moins facile techniquement, et donc on est quand même un peu à l'abri. Mais il n'y a pas vraiment non plus de... Enfin, il n'y a pas vraiment de danger quand vous passez avec un logiciel libre. L'immense majorité des virus ne ciblant que Windows. Vous n'êtes pas attaqué là-dessus. Et puis, il y a aussi des mesures techniques qui font que, de toute façon, le risque est vraiment très très faible.
Ok. Que des avantages, donc.
Que des avantages, oui. La seule réserve à garder là-dessus, c'est qu'il faut vraiment avoir envie de passer le pas, enfin de sauter le pas. Il faut vraiment avoir envie de se débarrasser de Windows, tout bêtement. Je veux pas avoir l'air d'un anti-Windows, je suis un pro logiciel libre. C'est pas le but, hein, de dénigrer Windows, etc. Les gens font ce qu'ils veulent, après tout. S'ils préfèrent être aliénés à un système qui marche pas,
ils ont le droit.
Voilà, mais oui, hein, l'aliénation est un droit inaliénable, après tout, hein. Pourquoi pas.
Et alors, si on veut se désaliéner de Windows et qu'on voudrait contacter Ch'tinux, c'est qu'on s'adresse.
Contacter Ch'tinux, déjà, on peut éventuellement appeler ici. Je peux répondre éventuellement. Deuxièmement...
0320 54 54 00.
On sent les professionnels.
Non, ouais.
Et on a un site web qui est très bien fait, entièrement en logiciel libre, qui respecte les normes du web, qui est www.chtinux.org, donc chtinux.org. Et donc on a pas mal d'événements qui se passent soit à la Maison Régionale de l'Économie et des Solidarités, c'est rue Gosselet à Lille, soit à la Maison des Associations, je sais plus où c'est.
C'est rue Royale, à Lille toujours.
Ah, c'est rue Royale. Ah bah oui, bah donc c'est ça en fait. Ils refusaient le bâtiment, il y avait la toiture qui était arrachée, je crois. Et puis on fait des install parties dans ces structures-là, on fait également des conférences à la cyberbase de Bois-Blanc, métro Bois-Blanc. Et on a une présence également assez forte au niveau du Café Citoyen. C'est là que se réunit en ce moment même le conseil d'administration de notre cher bien-aimé conseil d'administration de l'association. Donc effectivement, il y a moyen de nous rencontrer. Le plus simple, c'est vraiment de passer par le site web. Vous verrez un petit peu une présentation de l'association, une présentation des membres, voir exactement ce qu'on fait, l'agenda des choses qui se prévoient, etc., etc.
Tu peux peut-être nous dire la prochaine date pour conclure d'Install Party.
Alors, la prochaine date d'Install Party.
Bon, regardez sur le site.
Ouais, regardez sur Maxime, le site. C'est pas moi qui m'en occupe.
Il a oublié son agenda.
Oui, c'est pas moi qui m'occupe des install parties en fait, je m'occupe plutôt des conférences.
Merci Maxime, merci Zoé, c'était fort intéressant. Vous aurez tout compris, hein, Fred, toi aussi, t'es prêt à installer tes parties. Enfin, non, c'est pas ça que je veux dire.
Je suis prêt à troquer mon vieux Windows, effectivement, qui passe son temps à se mettre des bâtons dans les roues pour protéger les droits et les ayants droit plutôt que de développer sereinement un logiciel le plus. le plus facile à utiliser et à portée de tous, quoi, tout simplement.
Pour rebondir là-dessus, juste un tout petit mot à propos de la loi Internet et création, qui est une abomination que nous pond le gouvernement en ce moment pour justement protéger les ayants droit et de manière à ce qu'ils puissent continuer à garder un modèle économique vieillot et complètement hors d'âge. Y a un collectif qui s'appelle la Quadrature du Net, donc laquadrature.net, qui a sorti un gros dossier très intéressant, très bien documenté sur pourquoi cette loi c'est n'importe quoi, pourquoi elle fonctionnera pas comme d'habitude, pourquoi elle est dangereuse. Et qui explique un petit peu pourquoi derrière on a Danine Morano qui veut filtrer Internet pour éviter que nos chers enfants se fassent kidnapper par des pédophiles, et également filtrer les accès Wi-Fi pour éviter qu'on puisse télécharger dessus. Donc je vous invite à vraiment voir un petit peu de ce côté-là ce qui se passe. Donc ça va être voté début mars. Il faut vraiment contacter vos députés, vos élus locaux. Pour leur expliquer la menace, leur expliquer pourquoi c'est n'importe quoi, pourquoi on veut pas de ça en France, on veut pas de ça ailleurs non plus d'ailleurs, mais vraiment en France on n'en veut pas. Et voilà, il faut vraiment lever la tête, regarder un petit peu là-dessus, ne pas croire que les logiciels libres c'est que des barbus à cheveux longs. Il faut regarder un petit peu, s'intéresser aux choses, et puis méditer. Voilà.
Ok, bah je crois que le message est passé.
Tout de suite un petit peu de musique, Fred.
Allez, on va une petite nouveauté musicale. NLF3, ça s'appelle voilà le nom du groupe, le nom de l'album Ride on a Brand New Time, et on va écouter La Boda. La Boda, c'est ce qu'on entendait tiré de l'album Ride on the Brand New Time du groupe NLF3. Et on va continuer tout de suite avec la chronique de Sylvain. Eh bien non, de Florent.
Florent.
Alors, aujourd'hui c'est Mardi Gras, hein, tu l'as annoncé tout à l'heure.
Ouais.
Alors, pour l'occasion, déjà, je voudrais féliciter les 565 966 foyers qui ont payé l'impôt de solidarité sur la fortune en 2008. Donc, ça fait beaucoup quand même, hein, ça fait une augmentation de 7,2% par rapport en 2007. Donc on peut se féliciter, hein, dans notre pays il y a encore plus de riches qu'il n'y en avait avant. Donc en temps de crise, c'est toujours rassurant. Pour être un peu plus sérieux, aujourd'hui je vais parler de peur, puisque la France a peur, elle a bien raison d'avoir peur, la France. Crise, violence, délinquance juvénile, quartier dangereux, casseurs, islamistes, ultra-gauche, mouvance anarcho-autonome, sexe, drogue, rock'n'roll et terrorisme. Ah voilà, ça c'est quelque chose qui fait peur, le terrorisme. Parce que depuis le 11 septembre, en France, on attend impatiemment nos attentats islamistes à nous. Les Américains en ont eu, les Espagnols en ont eu, les Anglais en ont eu, même les Égyptiens dernièrement. Et nous, bah merde, toujours rien quoi, comme si on n'était pas une grande puissance, comme si on n'avait pas droit aussi à nos attentats islamistes. Ah, rien. Des militaires dans les gares, du vigipirate, en veux-tu, en voilà, mais pas le moindre attentat. Alors bah, du coup, on a bidouillé, hein, pour nous trouver des terroristes bien de chez nous, peut-être pas aussi forts que les barbus, peut-être pas aussi inquiétants, mais ils font peur quand même, les nôtres. Alors du coup, on a découvert la mouvance anarcho-autonome. Ça, c'est pas mal, hein, sur l'échelle de la peur. Alors bon, déjà, c'est une mouvance. Alors mouvance, on sait pas trop ce que c'est, ça a l'air diffus, ça agit dans l'ombre, c'est pas très bien identifié. Mais c'est bien du genre à frapper au hasard, hein. C'est comme groupuscule, ça fait toujours un petit peu peur. Et puis bah, anarcho-autonome, c'est comme ultra-gauche, ça fait penser à la bande à Bono, à Action Directe, à la fraction Armée Rouge, aux Brigades Rouges. Et du coup on se dit, bah, en France peut-être que bientôt va y avoir des bandes qui vont sillonner le pays pour poser des bombes, multiplier les enlèvements, les assassinats, les détournements d'avions. Bon évidemment, direction Tarnac, quand tu détournes un avion, ça sonne pas aussi bien que direction Cuba, mais on fait avec ce qu'on a sous la main, hein. C'est la Corrèze. Alors bon, d'accord, pour l'instant, les seuls faits d'armes qu'on peut imputer à la terrible mouvance anarcho-autonome, c'est le sabotage de 4 caténaires de la SNCF. Mais bon, faut bien débuter quelque part, hein. On commence par mettre les trains en retard, et avec un peu de chance, on finit par construire des goulags. Du coup, l'État, ce cher État, seul et unique garant de l'ordre et de la justice, n'a pas hésité à frapper fort. Et donc, c'est pour direction d'une structure à vocation terroriste, association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste et dégradation en réunion en relation avec une entreprise terroriste, on sent bien que c'est terroriste, hein, que Julien Coupa a été mis en examen le 15 novembre 2008 et immédiatement placé en détention provisoire avec 4 autres personnes. Alors la détention provisoire c'est quoi? C'est quelque chose de fantastique réellement, ça permet de mettre en prison quelqu'un sans avoir besoin de le juger. Principe de précaution, hein. Dans le doute, en attendant de trouver un juge laxiste pour le relâcher ou un avocat adroit qui obtienne un non-lieu, on l'empêche de nuire. Allez hop, au newf les anards. Les inculpés de Tarnac ont été relâchés, faute de preuves, sauf Coupa. Bah oui, lui c'est le chef. Alors le chef de quoi, on sait pas très bien puisque les autres ont été relâchés, mais bon, on l'a gardé quand même dans le doute, hein. Même si le juge des libertés de la détention avait ordonné le 19 décembre sa remise en liberté, mais non, le parquet a immédiatement déposé un appel suspensif en passant par une procédure exceptionnelle, le référé détention. Il a bien raison le parquet, on va quand même pas tous les laisser retourner dans leur Corrèze planifier la destruction de la société bourgeoise. Non, à danger radical, réponse radicale. Et c'est pareil pour les banlieues, un autre vivier du terrorisme. Alors si vous avez lu le Politis, je sais que tu l'as lu Steph, parce qu'il y avait un article dont tu nous as parlé. Donc le Politis de la semaine du 29 janvier, on trouve un article qui s'appelle « War on Terror » dans le Val-de-Marne, et signé Sébastien Fontenelle. Ouais, vous ne moquez pas de mon accent. Je vous lis un petit extrait. Octobre 2008, la direction centrale de la sécurité publique présente devant des responsables policiers des pays européens son nouveau, je cite, « modèle de maintien de l'ordre dans les quartiers difficiles ». Adieu poésie, les forces de l'ordre seront désormais armées de flashballs à lunettes de visée et soutenues par de gros moyens aériens, petits avions, hélicoptères, drones. Surtout, elles pourront pratiquer des gardes à vue de 96 heures. Comme dans les affaires de terrorisme, l'ennemi intérieur de banlieue a cet avantage sur les talibans afghans qu'il permet, lui, de facile triomphe. Voilà, donc ça c'était un article qu'on pouvait lire dans Le Politis de la semaine du 29 janvier. Or c'est fantastique tout ça, hein, flashball, hélicoptère, drone, lunettes de visée, on se croirait dans un jeu vidéo futuriste. Ils font sûrement pas les malins, les mecs qui brûlent les voitures. Hein. Heureusement, il n'y a pas que l'administration et la justice et la police pour participer au grand combat contre les terribles dangers que courent les braves gens. Il y a la science aussi. Et quand la science se met au service de l'ordre et de la sécurité, ça donne le FNAEG. C'est le fichier national automatisé des empreintes génétiques. Alors le FNAEG, en 2007, il centralisait les profils de 615 000 dangereux criminels. Alors sur les 615 000, il y en avait plus de 200 000 qui étaient fichés sur de simples présomptions. Voilà, ils n'ont pas été jugés, hein, mais comme on n'a pas besoin d'un jugement pour mettre les dangereux anarcho-autonomes en prison, il n'y a pas de raison qu'il y ait besoin d'un jugement pour prendre leur ADN non plus. Alors cette inscription, ça dure 40 ans. Voilà, le temps de se calmer, hein. C'est vrai que quand on a pris ton ADN à 30 ans, une fois à 70, en général, t'es un petit peu moins vif à aller brûler des voitures et taper du CRS. Qu'est-ce qui se passe si on refuse de donner son ADN? Alors le code pénal prévoit jusqu'à un an ferme et 15 000 euros d'amende. Voilà, ça leur apprendra à chercher à retarder la marche du progrès. Mais la science, ça ne permet pas seulement de dresser une carte, une liste, un fichier de tous les éléments dangereux de la société. Elle permet aussi de détecter les signes annonciateurs d'une tendance à l'illégalité dès l'enfance. Puisque, d'après notre cher président, le suicide et la pédophilie sont génétiques, on peut probablement découvrir également le gène du terrorisme. Ainsi, l'unité 675 de l'INSERM, alors l'INSERM c'est l'Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale, donc cette unité 675, elle travaille sur les gènes de vulnérabilité afin de proposer, je cite, « une prise en charge précoce des sujets à haut risque ». Alors en 2005, l'unité 675 a participé à une expertise collective de l'INSERM qui s'appelait « Troubles des conduites chez l'enfant et l'adolescent ». Donc les troubles qu'il conviendrait de dépister de façon systématique dès l'âge de 3 ans, on n'attend pas trop tard, hein, et d'éliminer selon ses conclusions ne sont rien moins que les crises de colère et de désobéissance ou les vols. Alors les vols, ils sont définis comme, je cite, « troubles oppositionnels avec provocation et atteinte aux droits d'autrui et aux normes sociales ». Donc voilà ce sur quoi travaille notre recherche. L'un des objets de l'unité 675, c'est de développer la pharmacogénétique. Alors ça c'est pareil, ça sonne bien, hein, c'est futuriste. Donc la pharmacogénétique c'est quoi ? Je cite encore, c'est l'utilisation de la génétique pour prédire une réponse thérapeutique. En d'autres termes, donc, c'est concevoir des camisoles chimiques efficaces pour, dès l'enfance, contenir, réduire, limiter les comportements déviants. Donc, bah, Steph et Fred, hein, je sais que vous avez des gamins, surveillez-les bien, parce que sinon, c'est camisole chimique directement, en attendant d'aller en prison.
Pour un vol de doudou aussi, ça marche comme ça?
Ah ouais, bah, bagarre dans la cour, y a un fichier qui a été mis en place, enfin, qui est en train de se mettre en place sur les retards scolaires, un fichier national, là, ça c'est super aussi.
Ah, on est bien gardé.
Alors voilà, merci la science, merci l'administration, merci à nos chers gouvernants qui savent prendre les décisions dures mais justes et nécessaires, merci à nos médias, grâce à qui on peut enfin voir la vérité, tous ces terribles dangers qui nous menacent sans qu'on s'en rende compte. Grâce à vous, la fantastique marche du progrès peut se poursuivre vers une société parfaite, douce et pacifiée, vers le meilleur des mondes.
Et merci à toi Florent, on en sait un peu plus sur nos propres peurs. Ça nous rassure quelque part.
Même pas besoin, par exemple, pour vous aurez vous tout le monde vous pourrez
vous
même avoir
clair,
accès.
Vous êtes pas clair quand vous parlez.
Vous pourrez même voir.
J'essaie de vous suivre, mais par moment vous parlez après vous.
Mais vous pourrez.
Ça sera tout de suite plus clair avec Stéphane et sa revue de presse.
Oui, je commence avec un courrier paru dans la rubrique courrier, ça tombe bien, de Télérama, où il est question de baladeurs, et c'est un courrier envoyé par Jean-Pierre Vasseur d'Evreux. On ne s'en étonne même plus, mais existe-t-il d'autres pays démocratiques dans lesquels le président est interviewé dans le décor de son choix, par des journalistes qu'il a choisis, le tout filmé par un réalisateur désigné par lui-même ou ses services? Information? Non. Communication? Alors pourquoi le palais ne se contente-t-il pas de réaliser un film promotionnel qui serait envoyé, prêt à l'emploi aux différents médias? Parce que ces interviews présidentielles ressemblent aux opérations type salon de la téléphonie ou congrès de l'équipement médical. à faire valoir par le jeu des questions-réponses aide à faire passer au public le message voulu par l'organisateur de la manifestation. C'est bien cela, aujourd'hui, Laurence Ferrari, David Poujadas et consorts, comme hier les très déférents Patrick Je suis un rebelle, Poivre d'Arvor et Arlette J'embrasse Jean-François Copé à la fin de mes interviews Chabot, font dans l'événementiel, comme on dit dans les entreprises sérieuses. Souhaitons simplement qu'à la fin, ils repartent chacun avec un t-shirt, une casquette et un baladeur MP3.
Moi aussi, je veux faire des interviews et repartir avec un baladeur MP3. On n'a pas ça, RCV.
Non, on n'a pas ça, on n'a pas ça. Et puis, on le regrette parce que ça pourrait être vachement pratique d'avoir ça, RCV. Je poursuis avec un ensemble de conseils parus dans un magazine auquel je vais abonner Zoé, c'est Micro Actuel, je suis sûr que ça va la passionner. Il y a tout un dossier, toute une enquête en fait qui est consacrée à la question suivante, comment éviter de diffuser trop d'infos perso, n'est-ce pas Fred, tu diffuses trop d'infos perso sur toi-même.
Ah bon
voilà, et y a
quand
7...
tu vas sur Mythique.
Ah. 7 bons réflexes à adopter, les voici, petit 1.
Oui, mais je mens sur Mythique.
Petit 1, ne vous inscrivez pas aveuglément sur tous les sites qui vous le proposent. Ah bon? Oui, pourquoi pas, enfin, on n'avait pas pensé. Petit 2, dans les formulaires, ne complétez que les zones obligatoires. En général, elles sont marquées par un astérix. Non mais c'est très drôle, moi ça m'amuse beaucoup. Je crois que c'est un mensuel ou un hebdomadaire, je sais plus bien, comique en fait, micro-abdo. Petit 3, allégez la signature de vos emails en éliminant toutes les informations inutiles. Numéro de téléphone, adresse postale, etc. Parce que c'est vrai que généralement quand on voit un mail à un copain, tu mets tout ton état civil. Ouais. Petit 4, ne communiquez jamais de données personnelles à des inconnus. Quel que soit le canal de la demande, par email, par messagerie directe, dans un forum, etc. Petit 5, n'hésitez pas à fournir des informations fantaisistes. C'est le conseil que tu
donnes. C'est tout ce que je fais sur Mythique.
Voilà. Par exemple, lorsque vous inscrivez sur Mythique, comme Fred Olek, l'excellent metteur en
scène, tu m'avais dit de diffuser moins d'informations que ça, enfin.
Donc sur un forum, il n'est probablement pas indispensable de donner votre vrai nom. Voilà, donc Fred, lui, on va pas diffuser son pseudo hein, tout de suite à l'antenne là maintenant, parce qu'il risque d'être reconnu, ce serait dommage. Petit 6, annulez votre inscription au service que vous avez cessé d'utiliser. Ah bon ? Et puis, petit 7, et dernier conseil en l'occurrence, sachez que vous avez à tout moment le droit de demander la consultation, la correction ou bien la suppression de vos informations personnelles dans les bases de données. Voilà, est-ce qu'il était utile de s'abonner à Micro Hebdo? Je ne sais pas. En tout cas, Zoé a l'air d'avoir appris plein de trucs quand même.
Par contre, sur la même question, abonnez-vous au Tigre, qui est un journal fort sympathique, qui fait des portraits Google. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler.
Non, vas-y, explique un petit peu.
On prend une personne au hasard. Bon, j'interromps ta chronique, hein, mais...
Non, mais tu as raison.
On prend une personne au hasard, on tape son nom sur Internet... Et on cherche toutes les données personnelles effectivement qui apparaissent, que ce soit sur Flickr, Facebook et consorts. Et on dresse son portrait et ça donne des choses assez étonnantes. Bon, alors la méthode journalistique est un peu limite, mais n'empêche que quand les gens se reconnaissent, ça leur fait quand même un drôle d'effet de savoir la couleur... Enfin, que le journaliste connaisse la couleur des yeux de leur ancienne petite copine. Voilà.
Effectivement, j'ai vu...
Et donc c'est dans Le Tigre.
Le Tigre. Je poursuis avec un article, une histoire parue dans Libération du lundi 23 février où il est question de Nathalie Kosciusko-Murizet qui en l'occurrence était bluffée par les sosies de Goldorak. C'est Michel Théman à Tokyo qui nous fait l'écho de cette histoire. La secrétaire d'État à la prospective et au développement de l'économique numérique s'est offert un voyage très branché, commenté en direct sur son Facebook, on y revient, au Japon et en Corée du Sud. Un trip pluridisciplinaire, télévision numérique mobile personnelle, robotique, internet, des objets domotiques, réseau d'ubiquité. Et à haut débit, durant 5 jours, elle a rencontré industriels et prospectivistes. Elle ne rentre pas en France avec une solution clé en main. Coréens, japonais et français, nous partageons le même problème, une multiplication des canaux de diffusion et un manque de contenu, dit-elle. Oh. Oh, c'est vrai, ça manque de contenu. C'est pour ça que voilà, Babel existe. Car si c'est pour diffuser la même chose que sur la télé fixe, où est l'intérêt, dit Nathalie Kosciusko-Murizet. C'est vrai, elle a raison de poser cette question. Elle se dit convaincue en revanche par les systèmes nippons de paiement sans contact et par les robots ménagers de l'université de Tokyo qui lui ont été présentés. De vrais sosies de Goldorak, a-t-elle déclaré. Allez, je termine avec, avec la rumeur internet de la semaine. C'est paru dans Charlie Hebdo. Le loto plus cher aux Antilles qu'en métropole à cause du prix du transport du pognon du gagnant. Voilà, c'est tout pour cette semaine.
Merci Stéphane. Vous êtes toujours sur Babel.
Babel.
Voilà, hein, je vous l'avais dit.
C'était bien ça, c'était court, mais c'était bien. On va sentir mieux là d'un coup.
Ah oui, cette semaine, beaucoup d'auditeurs nous ont appelés pour nous demander s'il fallait prendre une quelconque précaution pour visiter le salon de l'agriculture. Nous leur avons répondu que cette année, non, il n'y a aucune précaution à prendre. Et d'ailleurs, ça s'est vérifié, il n'y a pas eu d'incident. Aucune morsure, ni le moindre aboiement de notre cher président. Alors, beaucoup de nos concitoyens s'en félicitent. Ça y est, ils ont réussi, notre président est maintenant bien dressé. Il faut dire qu'ils n'ont pas lésiné sur les moyens. Mais permettez-moi de rectifier ce point de vue, car s'il n'y a pas eu d'incident, c'est dû à cette forme de muselière que l'on nomme service de l'ordre et une expression de la laisse appelée cordon de CRS. Ne vous y trompez pas, car s'il n'y a pas eu de morsure, c'est qu'on ne lui a laissé rien passer sous le museau. Aucun spectateur maladroit, aucun journaliste local indiscret, uniquement des représentants des différentes institutions politiques et de la presse nationale triés sur le volet et dont les avant-bras étaient rembourrés de mousse. Au risque de décevoir pas mal d'entre vous, le dressage de notre président est encore à faire. En attendant, gardons-nous bien de passer à ses yeux pour des saucisses et reprenons ensemble les bases de notre leçon diffusée il y a quelque temps. Bien choisir son président, c'était, rappelez-vous, sur l'émission Novice.
Soignez votre psyché avec les novices.
Mes chers amis, ce soir, c'est la victoire de la France. Il n'y a qu'une seule France. La victoire, elle n'a de sens que si elle est celle de notre pays tout entier. Des millions de Français nous regardent. Des millions de Français nous ont fait confiance. Mais je veux que vous ayez la force de comprendre.
Bien comprendre et éduquer son
président de la République
avec le docteur Monique Bourdin, vétérinaire comportementaliste.
Docteur Bourdin, que faut-il savoir avant de choisir un
président de la République?
Avant de choisir un
président de la République,
il faut se poser les bonnes questions. Combien de temps avez-vous à lui consacrer par jour? Habitez-vous en ville, à la campagne? Êtes-vous sportif ou pantouflard? Certaines races de
président de la République
demandent à courir plusieurs heures par jour.
Un président de la République
doit être adapté au mode de vie des maîtres. Vous êtes décidé, alors où l'acheter et à quel âge? Le choix du lieu d'achat est primordial. Il faut choisir un élevage dans lequel les
présidents de la République
sont restés avec leur mère jusqu'à 2 mois au moins et que ces
présidents de la République
étaient stimulés au plan sensoriel par des bruits divers et qu'ils aient été manipulés par des personnes différentes, voire par des enfants, afin de prévenir les troubles du comportement. Quant à la race, ne cédez pas aux effets de mode et vérifiez la provenance des
présidents de la République.
Dans certaines animaleries peu scrupuleuses,
les présidents de la République
sont importés d'Europe centrale dans des conditions d'hygiène et d'élevage désastreuses et présenteront des troubles du comportement.
Mais vous savez, la France m'a tout donné. Eh bien, il est venu le temps pour moi, aujourd'hui, de tout lui rendre.
C'était Soignez votre psyché avec les novices.
Un, deux, trois.
Babel.
Un, deux, trois.
Babel.
Pends-toi ma langue, pends-toi ma langue et fais tout ça. Pends-toi ma langue. Pends-toi.
très belle, à la fine saveur de lait frais.
Tu vas voir comme tu vas te régaler.
Vous allez vous régaler aussi avec Nico et Folkadoc dans quelques instants. Salut Nico.
Bonsoir monsieur.
Au programme de Folkadoc ce soir.
Bah déjà je vais essayer de faire une heure et demie, c'est pas gagné parce que je suis pas en grande forme, mais je vais débuter et puis.
C'est la saucisse de morteau d'hier qui t'a.
Ah non, je suis pas du tout saucisse de morteau, mais non je sais pas. En deux heures là j'étais pas bien, je sais pas ce qui se passe.
D'accord.
Mais bon, tant pis, on va essayer quand même. Et comme je passe des morceaux très péchus, ça va me retaper je pense.
D'accord. Folkadoc c'est dans quelques minutes, mais pour l'instant Fred.
Alors pour l'instant,
Il tripote des boutons.
Ouais. Je vais essayer de préparer un truc. Voilà, effectivement, à ma manière, pour fêter Mardi Gras, on va passer un morceau splendide qui s'appelle Brazil. Et il est interprété par Gato Barbieri, le fameux saxophoniste brésilien, sur son album El Pampero. On va écouter un morceau donc fantastique. Brazil de 10 minutes. On va tomber par terre, quoi. Attention, c'est parti. À tout à l'heure. Voilà, on va laisser là Gatto Barbieri et puis son saxophone magique qui nous a passé eh bien Brésil. Et tout de suite, eh bien c'est la chronique d'Olivier.
Tout à coup, une petite place s'ouvrit. Je tournai brutalement et partis dans un tête-à-queue. Mon châssis rate dans la terre, tandis que Darwin, plus de pierres s'abattaient sur la voiture.
J'ai l'autre